Théologie mystique, Père Philippe, 26 novembre 1982, Rimont.
Nous allons continuer d'entrer dans le prologue de Saint Jean pour essayer de comprendre ce qui doit être pour nous comme la charte de la contemplation. Si vraiment ce prologue représente pour Jean la lumière dans laquelle nous devons regarder tout son évangile. Le prologue est le terme de l'évangile, c'est-à-dire la blessure du cœur. Je crois qu'il faut mettre en liaison les deux, le point de départ et le terme.
Comme il est dit dans l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga se tiennent toujours dans l'économie divine. Le prologue nous donne, j'allais dire, la lumière mariale de tout l'évangile de Saint Jean. Tout ce qu'il a reçu de Marie dans son regard sur Jésus et la blessure du cœur nous fait comprendre comment Jean est témoin direct de Jésus crucifié. Marie ne fait jamais nombre, Marie s'efface toujours. Et si Marie joue un rôle important dans notre vie, primordial dans notre vie, c'est pour que nous soyons témoins de la blessure du cœur. C'est-à-dire pour que tout ce que Marie nous communique, nous puissions le vivre directement avec Jésus. C'est quand même impressionnant de voir cela, de voir ce point de départ de l'évangile de Saint Jean et le terme. Le point de départ, c'est net, hein, c'est la lumière. Et le terme, c'est le cri de soif et la blessure du cœur, c'est l'amour. C'est lumière et amour, c'est tout le mystère de la très sainte Trinité, c'est tout le mystère de Jésus. Le Verbe est devenu chair. Et je crois que c'est bien là où nous découvrons ce que nous devons nous saisir dans notre vie contemplative. Lumière et amour. Ça commence par la lumière et ça s'achève dans l'amour. C'est presque toujours comme ça, la vie contemplative. Elle s'achève dans l'amour. Elle ne s'achève pas dans la lumière. Elle s'achève dans l'amour. Dieu donne au début des lumières, beaucoup de lumières. Nous en avons besoin. Ça ne veut pas dire qu'au début, il peut y avoir des sécheresses. Hein, mais vous voyez bien, il donne beaucoup de lumière au début. Et puis, après, c'est le grand silence de l'amour. Et c'est bien cela, je crois, que nous découvrons dans l'évangile de Saint Jean. Alors, il faut essayer de découvrir dans ce prologue cette révélation, ce que je vous disais la dernière fois, cette révélation du Verbe, du Logos. Ce n'est pas Sophia, la sagesse, c'est le Logos. Et on comprend comment Jean, c'est le Saint-Esprit qui a voulu que Jean écrive en grec. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, pour comprendre le grec de Saint Jean, il faut revenir à l'hébreu. Certains le font. Je crois que c'est une erreur. Parce que le grec a des précisions que l'hébreu n'a pas. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a une volonté expresse de Dieu que l'évangile de Saint Jean soit un évangile qui soit écrit en grec. Alors, ça, il ne faut pas s'attacher au grec, hein, puisque ce n'est pas notre langue maternelle, et que ce n'est pas la langue maternelle de l'Esprit Saint. Mais il s'agit de se servir le plus que nous pouvons de ce langage de Jean pour entrer dans cette contemplation. Le logos grec a quelque chose d'unique. On ne peut pas dire « revenons d'abord la parole » tout simplement. Non, non, il y a quelque chose d'unique. Et on le sait, quand on regarde la philosophie grecque, hein, on sait très bien que le logos a été comme le leitmotiv de toute la philosophie grecque, depuis Héraclite jusqu'à Plotin. C'est le leitmotiv. Autrement dit, c'est ce qui, dans la philosophie grecque, a été le plus précisé, le plus amenuisé, c'est à la fois quelque chose d'extraordinairement simple, puisque ça veut dire aussi bien la parole, que ce qu'il y a de plus profond dans l'intelligence. Il y a les deux. C'est vrai, je peux traduire logos parole, c'est pas un contresens. Je peux le traduire discours, dans un discours sorbonnard. Et puis je peux le traduire verbum, secret. C'est ce qu'il y a de plus profond, ce de plus intime, puisque cette lumière est une lumière d'amour. Donc c'est nécessairement verbum cordis. Et si c'est le verbum cordis, c'est le secret. Et donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime dans le mystère du Père. C'est ce logos. Et alors c'est exprimé d'une manière très étonnante, cela. Dans le principe, en arché, dans le principe, était le Verbe. C'est pour nous faire comprendre que, comprenons bien, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le Verbe est plus intime que le mystère du Père, mais il faut comprendre que le fruit de la fécondité du Père est ce qui nous fait le mieux comprendre ce qu'il y a de plus intime dans le Père. Ce qu'il y a le plus intime dans le Père, c'est le fruit de sa contemplation, le fruit de sa vie. C'est ce logos. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intime, de plus secret. Et c'est pour ça que c'est dit, et je crois que c'est là quelque chose de très grand, quand on dit « en arché, dans le principe était le Verbe », on nomme même pas le principe, pour mettre en pleine lumière le Verbe. C'est fait admirablement, et même au point de vue purement poétique, hein, c'est fait de façon admirable de mettre à la fois ce parallélisme avec la Genèse pour bien nous faire comprendre la différence. Ce n'est pas du tout un commencement dans le temps, il n'y a pas de commencement dans l'éternité, mais c'est de nous montrer et de mettre en pleine lumière le mystère du Logos. Parce que c'est ce que fait la révélation. La révélation met en pleine lumière le mystère du Logos. La révélation ne cesse de nous dire « parole de Dieu ». C'est vrai. Le Logos, c'est la parole de Dieu. Mais le Logos, c'est aussi la source de toute parole. C'est celui qui est le fruit de la contemplation. Celui donc qui exprime ce qu'il y a de plus profond dans la contemplation. Dans la contemplation du Père, dans la contemplation de Dieu. Et pour bien nous faire comprendre que c'est lui qui manifeste cette contemplation, qui pour nous manifeste cette contemplation, et qui est la manifestation de la contemplation, on met en arché, dans le principe était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors là, c'est la première révélation, si vous voulez, la première révélation de la seconde personne de la très sainte Trinité, faite de cette manière si explicite, hein. Elle est déjà faite dans les évangiles, c'est bien évident. Mais première, dans le sens de la perfection, c'est là où la révélation de la seconde personne de la très sainte Trinité est faite de la manière la plus parfaite qui soit. Et c'est tout de suite le début de l'évangile. On commence par, vous voyez, l'ordre de perfection, j'allais dire, par rapport au mystère du Verbe. Il était au commencement auprès de Dieu. Alors, je vous ai dit, pour bien comprendre ce Logos, regardons donc les trois lieux où saint Jean parle du Logos. Ça, c'est quand même très important. L'Apocalypse et puis la première épître de saint Jean. Par lui, tout a été fait, et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Je crois qu'il faut maintenir ce qui... C'est le verbe... Geneto, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui devient dans le prologue. Dieu, c'est le verbe être. Et tout ce qui devient, tout ce qui est fait, c'est justement le devenir. Toute la créature est dans le devenir. Il y a un partage entre être et devenir dans le prologue qui est très étonnant, hein, et qui est très beau, on ne doit pas le regarder au niveau philosophique, on doit le regarder dans une lumière de foi. Mais dans une lumière de foi, c'est très beau de voir le verbe être réservé à la très sainte Trinité, réservé au Logos, réservé à Dieu, et le devenir, c'est tout ce qui vient de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu implique un devenir. à devenir radical dans une dépendance. Parce que c'est justement quelque chose qui n'a pas son être par soi. Si on n'a pas son être par soi, on dépend d'un autre. Alors, je vous avais dit qu'il fallait bien voir la différence du regard de la Genèse, où on regarde le Créateur à partir de son œuvre. Ici, au contraire, c'est un regard intérieur sur la créature. C'est dans la lumière du Logos, c'est dans la lumière du Verbe qu'on regarde la créature. Donc on a une lumière intérieure. C'est ça la lumière de foi sur la créature. C'est la différence de la connaissance philosophique. Dans la connaissance philosophique, on connaît les réalités pour elles-mêmes. Dans la foi, on ne connaît que Dieu pour lui-même. Et tout le reste est connu dans la lumière de Dieu. Et c'est vu dans la lumière de Dieu. Donc on ne peut pas s'y arrêter. Le croyant ne s'arrête pas au monde, il ne s'arrête pas à l'univers, il ne s'arrête qu'à Dieu. Et il ne peut s'arrêter qu'à Dieu. Parce que toute la lumière vient de lui. Et c'est ce qui nous est montré ici. Par lui, tout a été fait. Donc, la totalité, hein, tout. Ce n'est pas seulement l'univers visible. C'est aussi l'univers invisible, c'est-à-dire la réalité physique et les anges. Là, il y a un absolu. Par lui, tout a été fait. Et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Alors, la double affirmation, je crois, qu'est aussi très importante. Vous voyez, l'affirmation que tout provient de lui, et puis l'inverse, l'aspect négatif. Sans faire d'éclectisme, c'est toujours très intéressant de voir que nous connaissons parfaitement une affirmation quand nous servons d'une négation. Parce que la foi ne supprime pas notre structure intellectuelle. Et notre structure intellectuelle est ainsi faite que la négation est au service de l'affirmation. Pensez au poème de Parménide. Dans le poème de Parménide, c'est dit explicitement. Et c'est très important de voir ça, que de voir, de retrouver cela à l'intérieur même de quelque chose qui touche un regard si profond. Par lui, tout a été fait. Et sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. C'est très important de comprendre cette dépendance radicale de tout. Par rapport au Créateur, par rapport au Verbe de Dieu, tout est dans une dépendance radicale. Et c'est ça le fondement de toute, j'allais dire, liberté intérieure. Comprendre que nous sommes reliés directement au Verbe et que tout ce qui est autour de nous dépend radicalement du Verbe, comme nous-mêmes nous dépendons du Verbe. C'est très important et nous saisissons ça dans l'acte d'adoration. Un acte d'adoration fait dans la lumière de la foi. Et c'est le fondement de la contemplation. Implique ce point de vue-là. Quand vous adorez Dieu, vous reconnaissez que tout ce qui est en vous dépend du Verbe. Et vous voyez dans la lumière du Verbe. Et vous reconnaissez que tout ce qui est autour de vous n'existe que par lui. Donc tout est un reflet du Verbe. Tout est un reflet du Verbe. Tout est un reflet du Verbe de Dieu. Rien n'est négligeable sous ce point de vue-là. Les petites miettes doivent être prises parce qu'elles ont quelque chose d'un reflet du Verbe de Dieu. C'est très beau parce que ça montre la suppression complète de deux principes, principe du bien, principe du mal. Il ne faut pas l'oublier que les philosophies de ce temps étaient facilement avec un dualisme. Or ici, on supprime complètement le dualisme pour montrer la dépendance radicale de tout à l'égard de Dieu. C'est pour ça que c'est important de souligner, par lui, tout a été fait. Pas seulement le bien, mais tout. Même le serpent, il a été fait par Dieu. Même le dragon, il a été fait par lui, en tant qu'il existe, en tant qu'il a l'être. Et la dépendance est vraiment à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a ce panta qui est intéressant à souligner. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alors remarquez là aussi, parce que c'est quand même important à souligner, que vous voyez ici, ces trois aspects, la dépendance radicale de tout à l'égard du Créateur, à l'égard du Verbe Créateur. Ensuite, le point de vue de la vie. En lui était la vie. Vous savez que c'est très difficile à traduire ce passage. Ce qui veut dire, moi je crois, que Dieu, au sens rigoureux, n'est pas créateur de la vie. Il est le père de la vie. C'est-à-dire qu'il communique la vie. C'est Maître Eckhart qui, dans son commentaire sur la Genèse, et Maître Eckhart, vous savez, est un théologien mystique très spécial, mais qui a une profondeur de regard. Maître Eckhart dit, n'oublions jamais que Dieu n'est pas le créateur de la vie. Il est le père de la vie. Il est le créateur de l'être existant. C'est une distinction capitale que nous devons bien comprendre. L'athéisme contemporain, qui a commencé avec Feuerbach, provient de cette confusion de l'être et de la vie. Parce que si Dieu est créateur immédiatement de la vie ne peut plus avoir d'autonomie. Et il ne peut plus y avoir au sens strict de liberté. Dieu n'est pas créateur de la liberté, ce serait contradictoire. Hein? Dieu est créateur d'un être auquel il communique la vie. Oui, c'est une précision qui est importante. Et c'est pour ça qu'en communiquant la vie, il la communique à un être parfait. On ne peut communiquer la vie qu'à un être organique, qui a un certain tout et qui a une certaine autonomie. Et alors, il communique la vie à un être qui a son autonomie. Et quand cette vie est parfaite, c'est une vie qui implique la lumière et qui impliquera la liberté. Donc, il faut bien saisir cela. La dépendance radicale à l'égard de Dieu est au niveau de l'être. Ça nous est dit. Hein? Là, je me sers de la théologie et il faut servir de la théologie pour comprendre. Puisque la théologie provient de l'Écriture et la théologie nous aide à comprendre en profondeur le prologue de saint Jean. Alors il faut bien saisir que l'acte créateur de Dieu atteint notre être et que Dieu, en tant que créateur, peut être père. Et en tant qu'il est père, il communique la vie. Tous les êtres ne sont pas vivants. Il y a des êtres qui sont créés par Dieu et qui ne sont pas vivants. Il communique la vie à des êtres parfaits, à des êtres qui connaissent une certaine perfection. La vie implique toujours une certaine perfection dans l'ordre de l'être. Et il communique une vie plénière à l'homme. Et la vie était la lumière des hommes. Il y a donc un reflet particulier de la vie par le point de vue de la lumière. Alors vous retrouvez là la distinction des trois degrés si importants. Esse vivere intelligere. Je traduis, esse l'être, l'exister, vivere, pas la peine de traduire, et intelligere, vous comprenez. Donc il y a les trois degrés, l'exister, la vie, l'intelligence. Alors c'est très très beau de voir ça, de voir comment le verbe directement communique l'être. L'être est communiqué dans la lumière du verbe. Et le verbe est source de vie, puisque la vie est en lui. Il est source de vie. Et le verbe est source de lumière. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors, je crois que là aussi, c'est important de comprendre cela. On vient de parler de l'homme. On a parlé d'abord, par lui, tout a été fait. Et puis maintenant, on parle de l'homme. Dès qu'on parle de l'homme, on souligne que la création de l'homme s'est faite au milieu de la lutte. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est les ténèbres du péché. C'est évidemment pas les ténèbres de la nuit. C'est les ténèbres du péché. Là aussi, vous voyez la différence avec les ténèbres dans la Genèse. Dans la Genèse, les ténèbres, c'est l'opposé au jour. à la lumière du jour, et les ténèbres, c'est les ténèbres physiques. Tandis que dans Saint Jean, les ténèbres, c'est tout de suite les ténèbres intérieures, c'est-à-dire le péché. On nous montre que la communication de la lumière à l'homme s'est faite dans les ténèbres, et que les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter, n'ont pas pu supprimer cette lumière. Ce qui nous fait comprendre comment l'homme a été créé par Dieu après la chute de l'ange, de certains anges. Et c'est l'orgueil de l'ange qui a réalisé ces ténèbres. Et malgré ces ténèbres, malgré cette opposition des anges, Dieu a continué son œuvre de créateur. Pour nous faire comprendre la grandeur d'âme du créateur, la magnanimité du Dieu créateur. Nous, quand nous faisons quelque chose, nous faisons de plein, avec beaucoup d'amour, le mieux possible. Si ce que nous faisons implique des résistances, des oppositions, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est comme ça, je m'arrête. On a tous connu ça, quoi. Parce que quand on réalise quelque chose, on est très vulnérable. Le fait de communiquer, c'est le fait de donner. Et donc à ce moment-là, on est très vulnérable. La vulnérabilité consiste justement à quand on se communique, on se donne, et alors on est à ce moment-là d'une vulnérabilité très grande, qui fait que dès qu'il y a une résistance, on est atteint. Dieu a été atteint par la faute de Lucifer. Il ne faut pas l'oublier. Au moment où Dieu communique pleinement et totalement, où il livre même son désir d'aller encore plus loin dans l'œuvre de la création, pour créer un monde physique et créer son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme, il y a eu l'opposition, le non-serviam. Et malgré cette opposition, Dieu a continué son œuvre. Il ne faut pas oublier que l'homme et la femme ont été créés dans la lutte. Il existait les ténèbres. Les anges ont été créés dans la joie, puisque avant il n'y avait que Dieu. Et tous les anges ont été créés dans la joie, tandis que l'homme et la femme n'ont pas été créés uniquement dans la joie. Il y avait déjà les ténèbres. Et Dieu était déjà blessé. Blessé, comprenons bien, métaphoriquement, était blessé en ce sens que le péché existait, il y avait une résistance à l'égard de Dieu. Il y avait le non-serviam, il y avait les ténèbres. Et malgré cela, alors c'est là où je dis on découvre la magnanimité du Dieu créateur, malgré cette opposition de Lucifer, Dieu, le Père, le Verbe, a continué de créer. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Ce qui montre que tout de suite, il y a eu la lutte. Les ténèbres ont voulu étouffer la lumière, ont voulu arrêter la lumière. Vous voyez la signification de la première faute, qui est là, on voit très bien, la première tentation, si vous voulez, la tentation du serpent à l'égard de Ève, comme c'est dit d'une manière très étonnante, La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y a eu une lutte pour briser, supprimer la lumière. Le désir de Satan, c'était de mettre Ève dans les ténèbres. C'est de mettre Adam dans les ténèbres. Malgré la faute, l'intelligence d'Ève et d'Adam ont gardé leur appétit de vérité, leur désir de vérité. C'est, je crois, ce que nous pouvons comprendre quand il est dit « et les ténèbres ne l'ont pas arrêté ». Autrement dit, le péché, nous reverrons avec la Genèse, le péché n'a pas corrompu l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est restée lumineuse. Elle est restée capable d'atteindre la vérité. Elle est restée capable d'avoir sa propre lumière et sa propre recherche de la vérité. Autrement, on dirait que les ténèbres ont supprimé, ont arrêté la lumière que Dieu avait communiquée à nos premiers parents. Parut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ça, c'est très beau. La contemplation mystique, la contemplation divine, nous fait tout regarder dans la lumière de Dieu. Tout fut par lui. Quand vous regardez comme ça l'univers, c'est merveilleux. Aussi bien l'univers des anges et l'univers physique, quand vous regardez cet univers dans un regard contemplatif, vous dites « tout fut par lui ». Vous voyez que tout est en dépendance radicale de Dieu. Et c'est beaucoup plus qu'une annihilation, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Hein, c'est quelque chose de merveilleux de voir. On relativise tout. Le regard contemplatif à partir du logos, à partir du verbe, relativise tout. Alors on pourrait dire, mais oui, c'est ça, vous relativisez tout, donc au fond, il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, c'est Dieu. Pas du tout. Plus vous vous élevez haut dans la contemplation, plus vous avez la possibilité d'avoir un regard concret comme celui de Dieu. C'est la différence entre la contemplation mystique et la contemplation du philosophe. Le philosophe, quand il s'élève très très haut, vous comprenez très bien, il ne regarde plus beaucoup les petites fourmis. C'est comme quand vous êtes en avion très haut, vous regardez les petites dépendances, vous ne voyez plus hein, les petits individus, c'est plus grand chose. Parce que votre regard, justement, prend de l'altitude et donc il s'abstrait. Ça, c'est le regard philosophique, c'est très vrai. Le philosophe qui ne serait que philosophe et qui serait uniquement le philosophe qui se met à contempler ferait plus grande attention. C'était la réflexion que j'ai entendue de la fille de Merleau-Ponty. C'est pas drôle d'avoir un père philosophe. Je dis pourquoi ? Oui, parce qu'il ne s'intéresse plus à nous. Ça me met petite fourmi. Et quand il est pris par un problème philosophique, on comprend très bien ça. Il médite tout le temps, elle disait. Il pense tout le temps. Papa, il pense tout le temps. Ah oui, alors, parce qu'il pense tout le temps, évidemment, elle avait 15 ans quand elle disait ça. Et non, il ne s'occupe pas beaucoup des petites histoires. Hein. C'est la contingence. Dans un regard mystique et de contemplation mystique, ce n'est pas vrai du tout. Parce que tout a une importance dans l'ordre de l'amour. Et dans la lumière de l'amour, tout prend une importance selon le bon plaisir de Dieu. Paru un homme envoyé de Dieu. Dans le regard du Verbe, on va nommer Jean. On va le nommer, donc il va y avoir une relation personnelle et directe. Dans le regard contemplatif, à l'intérieur du regard contemplatif, paru un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ça, c'est très très fort, hein. Et c'est vrai que si je regarde ceux qui sont proches de moi dans la lumière du Verbe, dans la lumière du Verbe que je contemple, je vais beaucoup plus profond dans cette pénétration de mon regard sur lui. Puisque je peux le regarder à la manière du Verbe de Dieu. Je peux le regarder comme le Verbe de Dieu le regarde. Or, le Verbe de Dieu pénètre au plus intime de chaque homme. De toutes les réalités. C'est un regard intérieur. Paru un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoignage pour témoigner au sujet de la lumière afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage, mais il devait témoigner au sujet de la lumière. Regardez bien ce Jean. Évidemment, ici, c'est Jean-Baptiste, hein, un homme envoyé de Dieu. Vous avez trois dimensions à l'égard de Jean-Baptiste dans ce regard contemplatif. Paru un homme envoyé de Dieu. Donc, il est l'envoyé de Dieu, première dimension. Deuxième dimension, il vint en témoignage. pour témoigner au sujet de la lumière. Troisième dimension, afin que tous crussent par lui. Je crois qu'on peut mettre ici en parallélisme les trois dimensions de l'image de Dieu que nous découvrons dans la Genèse. Et les trois dimensions qui nous sont montrées ici, dans ce regard divin, dans ce regard surnaturel sur Jean. Les trois dimensions de l'image de Dieu sont le dominium, l'intelligence et l'amour. Nous reverrons cela, c'est pas la peine d'insister ici, puisque nous le verrons en étudiant progressivement les 11 premiers chapitres de la Genèse. On voit bien que c'est ces trois dimensions, dominium, intelligence, amour. L'homme doit dominer sur l'univers, l'homme est capable de nommer toute chose, l'homme est capable d'aimer celle que Dieu met auprès de lui. Alors, vous voyez comment la grâce va transformer ces trois dimensions. Ce n'est plus le dominium en premier lieu, c'est d'être envoyé de Dieu. Servir Dieu, c'est régner. C'est dit dans une oraison des dimanches. Servir Dieu, c'est régner. Si on est l'envoyé de Dieu, si on est l'envoyé du Verbe, on est serviteur. Celui qui est envoyé, c'est celui qui justement a une mission, mais une mission au sens très, très, très vaste, c'est-à-dire il est l'envoyé, il est relatif à Dieu. Il est envoyé à Dieu, envoyé par Dieu parce qu'il est relatif à Dieu. Donc il est serviteur de Dieu. Voilà la première dimension, c'est que à la place de dominer sur l'univers, la première référence n'est plus l'univers qu'on domine. La première référence, c'est relatif à Dieu comme un envoyé de Dieu. Le croyant est premièrement un envoyé de Dieu. Le croyant n'est pas premièrement celui qui domine l'univers. La seconde dimension, ce n'est plus premièrement l'intelligence, mais témoin de la lumière. On est témoin de la lumière par la foi. C'est la foi qui nous fait témoin de la lumière. Et la troisième dimension, afin que tous crussent par lui, on devient instrument de la grâce. On devient celui qui coopère à la communication de la foi, afin que tous crussent par lui. Je crois que c'est très important pour nous de saisir, voyez, la transformation de l'image en enfant de Dieu. Il y a une correspondance et en même temps il y a le dépassement. C'est les rapports entre la nature et la grâce, mais regardez directement dans l'Écriture. Dans un regard de foi, l'homme est l'image de Dieu, avec les trois dimensions. Dans un regard contemplatif, celui qui est surnaturalisé par la grâce, celui qui est transformé par la grâce, on voit comment ces trois dimensions de l'image sont prises par le mystère de la grâce, pour faire de lui un envoyé de Dieu, pour faire de lui un témoin de la lumière, pour faire de lui celui dont Dieu se sert pour propager la foi, afin que tous crussent par lui. Vous voyez le regard surnaturel que nous devons avoir les uns sur les autres, dans un regard contemplatif. Considérer que tous ceux qui sont autour de nous sont des envoyés de Dieu. C'est vrai, on n'a pas choisi notre prochain. Alors ils sont nombreux les envoyés de Dieu. Mais ce sont les envoyés de Dieu, c'est vrai. Chacun d'entre nous, nous sommes les uns pour les autres des envoyés de Dieu. Dans un regard de foi, nous devons dire ça. Dans une lumière contemplative, donc dans une foi plénière. Tant que vous n'arrivez pas à voir ça, mais vous n'êtes pas dans une lumière plénière de foi. Nous devons tous comprendre que nous devons être des témoins de la lumière. Regardons pas en premier lieu nos opinions, nos capacités intellectuelles, c'est très secondaire. on est témoin de la lumière. C'est tout à fait autre chose, ça c'est le croyant. Et puis en troisième lieu, on est tous envoyés pour coopérer à la communication de la foi, afin que tous crussent par lui. Vous voyez, le mystère de la grâce vu dans la lumière contemplative, par rapport aux trois dimensions de l'image de Dieu telle que la Genèse nous les montrait. Il y a là, je crois, quelque chose d'important pour nous, pour ceux qui s'intéressent au point de vue théologique, au rapport de la nature et de la grâce. Parce qu'il y a toujours toute l'étude théologique qu'on fait, qu'on doit replonger dans la parole de Dieu pour comprendre que là, nous saisissons d'une manière extrêmement concrète, d'une manière extrêmement forte, ce double regard. Regard sur l'homme comme créature, regard sur l'homme comme enfant de Dieu. Celui-là n'est pas la lumière, mais il devait témoigner au sujet de la lumière. À partir du verset 9, nous entrons dans la seconde partie du prologue. Vous voyez que la première partie du prologue, elle est assez impressionnante. Cette entrée dans le mystère de Dieu par le Verbe et ce regard sur toute la création par le Verbe. C'est le Verbe qui nous donne cette entrée sur le mystère du Père, ce regard contemplatif sur le mystère du Père, et qui nous donne un regard contemplatif sur l'univers, et qui nous donne un regard contemplatif sur l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu et l'homme appelé à une vie divine. Puisque c'est ça qu'on doit avoir comme regard contemplatif. On doit regarder dans l'homme non seulement l'homme créé à l'image de Dieu, mais l'homme qui est appelé par Dieu à être enfant de Dieu. Celui qui vit déjà et qui essaie de vivre cette vie, et puis ceux qui ne la vivent pas, mais qui sont appelés à cela. Donc dans tout homme, on doit regarder ces dimensions. Ils sont tous faits pour cela. À partir du verset 9, nous avons alors le point de vue du gouvernement de Dieu. Un regard sur l'économie divine, comme on dirait aujourd'hui. Mais une économie divine contemplative. C'est très beau de voir ce double aspect, vous voyez, qui divise le prologue. L'aspect vertical et l'aspect horizontal dans la lumière du vertical. Ce qui est très important. Autrement dit, le regard de la création et l'appel à l'ordre surnaturel, donc le regard de la création et de la rédemption, c'est impliqué dedans. Ce n'est pas explicite, mais c'est impliqué dedans. Et puis, la manière dont Dieu va nous gouverner, la manière dont on est gouverné par le Verbe de Dieu, parce que c'est vraiment le Verbe de Dieu qui nous gouverne. La lumière, la véritable, qui éclaire tout homme, venez dans le monde. Première affirmation. Alors, soulignons, la lumière, la véritable, ça c'est tout à fait johannique. Vous savez combien Jean aime de dire le véritable, le pain véritable, la lumière véritable. Pour lui, c'est quelque chose de très spécial. C'est comme une espèce de réduplication. La lumière qui n'est que lumière. C'est-à-dire la lumière au sens le plus fort qui soit. La signification la plus pure de la lumière, la véritable, celle qui n'est que lumière, qui illumine tout homme. Alors, soulignez bien, la lumière illumine tout homme est illuminé par la lumière. Donc, tout homme est illuminé par le Verbe de Dieu, puisque cette lumière véritable, c'est le Verbe de Dieu, qui illumine tout homme. Alors, évidemment, ce n'est pas pour donner raison à l'illuminisme de Saint-Augustin, mais on voit très bien comment l'illuminisme de Saint-Augustin peut s'appuyer sur cette parole-là. Il faut faire attention, mais il y a quelque chose de très très beau, parce que ça nous fait comprendre comment il y a une alliance fondamentale de tout homme avec le Verbe de Dieu. Une alliance fondamentale. la Genèse, le début de la Genèse, nous montre la première alliance fondamentale de l'homme avec Dieu. C'est du côté de la fécondité. J'ai enfanté un fils avec Yahvé. Ça, c'est la première alliance qui est l'alliance dans la fécondité. Dieu a voulu qu'il y ait cette alliance dans la fécondité. C'est que Dieu va coopérer à la procréation. Puisque Dieu va créer l'âme dans le corps. Et sans doute, dès le premier moment de la conception. Donc, la procréation humaine n'est pas seulement une œuvre de l'homme, c'est une œuvre de l'homme avec le Créateur. Et le Créateur a voulu laisser à l'homme l'initiative de la procréation. Et Dieu répond. C'est ça qui est extraordinaire. Normalement, le Créateur a l'initiative. Dieu n'a pas donné un planning familial. Non. Il aurait pu le faire, étant donné la bêtise de l'homme. Alors il aurait pu faire ça, on aurait très bien compris. Dieu n'a pas fait ça, ça ne fait pas partie de la loi de Dieu. Dieu, au contraire, répond aux initiatives de l'homme. Et ça, c'est l'alliance fondamentale. La seconde alliance, elle nous est montrée ici. C'est l'alliance de l'intelligence, de l'esprit, avec le Verbe de Dieu. Il y a un lien de connaturalité, difficile à préciser, ça ce sera les théologiens qui devront préciser, mais qui est souligné ici. L'intelligence humaine est éclairée par le Verbe de Dieu. Et si elle est éclairée par le Verbe de Dieu, l'intelligence humaine a donc une capacité de remonter jusqu'à Dieu. La lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venez dans le monde. C'est très beau, ça. Et vous voyez, premier principe du gouvernement divin. C'est extraordinaire. Ça, c'est très très haut comme vision de l'économie divine. La lumière, la véritable qui illumine tout homme, on ne dit pas seulement les croyants, mais tout homme, venez dans le monde. Ce qui fait comprendre aussi, vous voyez, le fondement des traditions religieuses. Toutes les traditions religieuses s'appuient sur cette lumière initiale et fondamentale. Il y a dans l'homme quelque chose qui l'apparente à Dieu, et qui fait de lui un être religieux. Et c'est pour ça que les traditions religieuses ont toutes une petite parcelle de vérité. Dans toutes les traditions religieuses, il y a une petite parcelle de vérité. Il y a quelque chose qui provient du Verbe de Dieu. Elles ne sont pas entièrement pures parce que les hommes charrient avec la lumière de Dieu des quantités de choses qui ne sont pas la lumière de Dieu, mais il y a quelque chose de la lumière de Dieu. Et ça, ça donne le sens que nous devons avoir vis-à-vis de toutes ces alliances qui existent avec Dieu. Mais l'alliance fondamentale, voyez, c'est cette alliance de l'intelligence avec le Verbe. Il était dans le monde, et par lui, le monde a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Alors, on voit, premier rejet, première alliance, premier rejet. Il faut souligner cette première alliance. Et cette première alliance, il est le Verbe, la lumière véritable, qui illumine tout homme. Le rejet, c'est le monde. Il était dans le monde, dire toutes les significations du monde dans sa genre. Vous savez bien, on dit que le monde ici, pour la première fois, apparaît. Hein. C'est la première fois, le monde apparaît. C'est la première fois où dans l'évangile de Jean, le monde apparaît. Eh bien, le monde apparaît ici comme, premièrement, une capacité de refus. Alors que l'homme apparaît en premier lieu comme une capacité de réceptivité. Il y a une espèce de chose qui est très, très étonnante à souligner. Je crois que c'est important, ça. Parce que autrement, il y a un leitmotiv qu'on ne saisit plus. Alors, il faut saisir le point de départ, ça. C'est très net, hein. L'homme, puisqu'il illumine tout homme, donc l'homme apparaît tout de suite dans sa dignité d'avoir une lumière qui vient directement du Verbe de Dieu. Ce petit lampion est allumé par la lumière de Dieu, est allumé par la lumière véritable. Il y a en lui une petite lumière. Mais cette petite lumière, elle peut disparaître. Elle peut disparaître à cause du monde. Parce que l'homme, il est dans le monde, hein. Et alors, il peut y avoir cette emprise. C'est dit, n'est-ce pas, quand on dit « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Non, les ténèbres n'ont pas arrêté. Ça, je crois que les ténèbres là, c'est les ténèbres angéliques. Ici, c'est le monde. Ce n'est pas les ténèbres angéliques. Hein. Il faut quand même reconnaître qu'il y a chaque fois quelque chose de particulier. Et comme c'est complexe, hein, ce n'est pas du tout simple ce prologue. Hein. C'est merveilleusement précis. C'est le monde qui refuse et qui rejette cette lumière du Verbe. Alors, ce monde qui refuse cette lumière du Verbe, il faudra savoir ce que c'est que ce monde. Je crois que pour le savoir bien, il faut comprendre tout simplement ce qui est dit dans Saint Jean, dans la première épître de Saint Jean. Il faut expliquer Jean par Jean. Mais on explique l'évangile avec la première épître de Saint Jean. Et dans la première épître de Saint Jean, il nous est montré que le monde, selon une certaine signification, je ne dis pas tout, mais selon une certaine signification, le monde peut signifier le monde qui est sous la mouvance du démon. Ce n'est pas l'homme, c'est le monde. Il faudra essayer de bien préciser ça.
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.